vous y trouverez peu de références bibliques, parce que nous nous attendons à ce que ce soit vous-même qui puissiez les mettre. Je ne suis pas du tout intéressé que vous ayez ma théologie. Je suis intéressé que vous lisiez la Bible, que vous trouviez vos convictions dans la Bible, et que ce que vous croyez, c'est ce que le Saint-Esprit vous fait comprendre. Nous essayons pas de vous enseigner une doctrine particulière. Mais puisqu'on m'a demandé de vous parler de ces deux sortes de Bible, je les ai. J'étais très fatigué ce soir et il paraît que j'ai fait des erreurs en écrivant, alors j'ai tiré le rideau demain. Vous l'aurez. J'écrirai cette nuit, je pense que je suis un peu mieux. Est le thème général de cette dernière retraite, car c'est certainement la dernière, et de l'année, et de nos retraites. Ici, malgré que les sœurs m'ont offert 3 dates pour l'année prochaine, mais je ne puis pas m'avancer pour accepter. J'ai un programme tellement chargé dans d'autres pays, et que je ne sais pas si je peux tout envisager. Alors, nous vivons au jour le jour, notre stress, nous l'aurons bientôt là-haut, de sorte que c'est peut-être notre dernière retraite dans cette maison que nous avons aimée, que nous avons chérie, et où nous avons été reçus avec tant d'amour par nos sœurs, appelées sœurs grises, et qui sont les sœurs de la charité, et qui voudraient que ça continue, parce qu'elles savent bien que ça pourrait réjouir Marguerite Duville, la fondatrice de cet ordre, qui aimait tellement le Père que d'y aller se connaître le Seigneur Jésus, et qui se réjouit d'entendre que ici on se rassemble, non pas comme une église particulière, mais comme des hommes et des femmes qui ont cru personnellement au Seigneur Jésus et qui forment ensemble le corps du Christ. Peut-être les gens, beaucoup n'aiment pas le mot œcuménisme, mais pour moi, c'est mon vrai œcuménisme spirituel. Ce n'est pas un œcuménisme de confession, mais une manifestation de l'amour que nous avons les uns pour les autres quand Jésus-Christ habite dans nos cœurs. Et je dois revenir sur ce que j'ai dit au frère qui se trouvait là au mois d'octobre à la conférence. Comment est-ce que j'ai eu à cœur de traiter ces sujets? Et pourquoi n'avez-vous pas reçu un rappel au milieu de l'année? Au mois de janvier de cette année 1996, j'avais beaucoup prié notre Dieu pour qu'il me donne une parole qui corresponde aux besoins des âmes qui recevraient ce message que j'envoie une fois par année, et c'était le 60e. C'était la 60e année de mon ministère, et me tenant devant le Seigneur, je lui avais demandé « Quelle est la parole que tu veux que je donne à mes amis qui sont encore vivants et que j'ai connus dans différents pays du monde, et à mes plus proches, que veux-tu que je leur dise ?» Et en priant, j'ai reçu très distinctement cette parole, et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle se trouvait dans le livre de Jérémie, qui fut pour moi, en 1936, le libre de ma vocation. Et c'était comme une confirmation. Et quelle était cette parole? Quand, à l'âge de 20 ans, j'avais dit à Dieu, lors de son appel, alors que je me trouvais en convalescence en Italie, je lui avais dit, je suis trop jeune. Je ne peux pas te servir. Il me faut toute une préparation, mais cette préparation, j'avais eu 4 ans dans la souffrance. Seul avec Dieu et avec les livres que Dieu me donnait. Et Dieu m'avait confirmé que, avant ma naissance, mes parents me l'avaient dit, ils avaient demandé un fils, et que s'ils étaient exaucés, ils demandaient à Dieu que ce fils lui soit consacré, mais pas comme le serviteur d'un milieu, j'étais né en milieu protestant, mais nous aimions beaucoup les catholiques, qui était minoritaire, mais notre père nous avait appris à les aimer. La plupart étaient des maçons, on les avait comme ouvriers dans nos maisons, et on nous avait appris à les aimer. De sorte qu'il n'y a jamais eu ce que j'ai ressenti si souvent, dans le Québec en particulier, cette espèce d'animosité contre les catholiques ou contre l'Église de Rome. Nous nous aimions les uns les autres, sans peut-être partager les convictions des uns et des autres. Mais enfin, nous vivions ensemble. Et puis, nous pouvions parler de Dieu ensemble. Et ce qui était très frappant, c'est que l'assemblée dans laquelle nous nous réunissions avec mes parents, se trouvait dans la petite capitale de notre canton, et nous devions prendre le même tram que les enfants catholiques qui, eux, allaient aussi à l'église catholique. Il n'y avait pas d'église catholique dans ce pays, on avait seulement là. Alors, ce tram qui nous conduisait pour un lieu de culte, nous nous retrouvions toujours entre catholiques et nous, et les enfants racistes. Alors, nous nous connaissions, nous savions que nous n'étions pas des bêtes sauvages, ni les uns ni les autres, et on s'appréciait. Alors, on n'a pas eu cette haine. Est-ce que mes parents m'avaient dit avant ma naissance, après ma naissance, ils avaient prié ainsi, que Dieu leur donne un fils, et si c'est un fils, ils le lui consacrent. Mais pour que je ne sois pas l'homme d'un milieu, mais l'homme de Dieu pour tous les hommes. Et quand en 1936, 5 ans après ma conversion et ma préparation, seul à Domodossola, devant ma chaise, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai 20 ans, mais que veux-tu de moi? Et j'ai prié. Et la parole qui m'a été donnée, aussi vrai que le Seigneur était présent ici, a été fait. Avant que je te formasse, dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de ton sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète pour les nations. Alors, j'étais bouleversé, parce que j'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais à genoux devant ma chaise. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Parce que ma mère, mes parents m'ont dit cela. Et je dis, ah, Seigneur, Voici, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Je ne savais pas qu'il y avait une parole comme ça dans la Bible. J'avais lu beaucoup la Bible, mais je ne me souvenais absolument pas de ce verset. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer du l'Éternel. C'est aussi clair que ça. Et vous savez, quand le Seigneur nous parle de cette manière, on ne peut pas résister. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais c'est pour vous dire, voilà comment j'ai été appelé en 1938. Donc je suis rentré à la maison, j'ai révélé à mes parents ce que le Seigneur m'avait dit. On en a parlé dans l'église, on m'a donné la main d'association, mais j'ai dit, je ne veux pas enseigner les gens qui en savent plus que moi, je veux aller dans les pays catholiques. Ensuite, où on ne peut pas lire la Bible, parce que c'était pas encore le moment où on pouvait lire la Bible. Et je veux aller y porter la Bible. Parce que sans ça, c'est le communisme qui va prendre. Mais je veux le faire en toute droiture. Si je m'en vais au Valais, j'irai d'abord à la grande maison qui ouvre le Valais et qui est une maison catholique. Et je vais demander au prêtre de me donner l'autorisation d'aller apporter la Bible, puisque j'avais 3 ans plus le dernier pape qui disait qu'il fallait donner la Bible. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je leur demandais de ne pas brûler non mes Bibles que je donnais, que je ne vendais pas. Alors voilà pourquoi ce n'est pas au Québec que j'ai eu mes contacts avec les catholiques. Je les ai eus en Suisse. J'ai été mis en prison en Suisse. J'ai eu des ennuis en Suisse. Je sais ce que c'est que d'avoir des oppositions. Mais je n'avais fait aucun mal. Et je fais toujours les choses dans la lumière. Mon père m'avait appris qu'il me fallait vivre dans la transparence. Et c'est ce que j'ai fait. Alors après le canton du Valais, j'ai fait le canton de Fribourg, où j'ai eu les mêmes expériences. Mais d'autres fois, des gens qui pleuraient et qui disaient, nous avons prié depuis tant d'années pour pouvoir avoir une Bible et maintenant nous l'avons. Et moi, j'avais le cœur fondu quand je pensais à tout ça. Et vous comprenez bien pourquoi j'étais si heureux quand l'Église romaine a donné l'autorisation de lire la Bible. Et voilà pourquoi je suis si malheureux de voir qu'aujourd'hui, dans cette même Église qui a donné la permission d'ouvrir la Bible, bien souvent, on fait des façonnements bibliques pour détruire l'autorité de la Bible qu'elle avait quand elle était fermée. Alors, mes amis, vous voyez, servir le Seigneur, hein, j'ai 80 ans, mais si j'avais pas été appelé, bon, je sais chose. Mais quand le Seigneur vous a appelé, eh bien, vous ne pouvez pas résister. Et je reviens à mon mois de janvier de cette année. Je demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me donne cette parole parce qu'il nous parle. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois? Lire la Bible, c'est le rencontrer. Et c'est l'entendre nous parler. Et qui m'a fait tellement de bien, c'est que ces derniers mois de l'année dernière, j'ai lu des articles écrits par des catholiques qui soulignaient la chose, entre autres, comment lire la Bible d'une manière savoureuse. Eh bien, si quelqu'un était heureux, ça c'était bien moi. Qu'on nous dise qu'on pouvait lire la Bible d'une manière savoureuse et pour être transformé dans notre vie, dans notre quotidien, afin que notre témoignage d'évangélique soit vraiment l'évangile et non pas autre chose. Alors, le texte de Jérémie, c'était toujours dans le chapitre 1, qui disait, que vois-tu Jérémie? Et Jérémie dit, je vois un bâton d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu Jérémie. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et vous savez que c'est l'amandier que l'on voit fleurir en premier dans les terres d'Orient. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et ça a été, ça m'a transpercé au mois de janvier, au début de janvier, comme une flèche. Dieu va exécuter sa parole. On peut lire les journaux, on peut nous parler de nouveaux gouvernements, on peut nous dire tout ce que l'on veut. Dieu me dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce qui est écrit sera réalisé un jour. J'ai pas de date à mettre. Alors, ça m'a tellement fait que j'ai écrit ce message que je vais vous afficher là. Pour ceux qui voudraient le relire, je crois que je l'ai. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et j'ai préparé ce message. C'était le 14 janvier. Puis tout d'un coup, je me suis dit, les sœurs m'avaient demandé de leur prendre 3 périodes. Et on paye une certaine somme pour arrêter les 3 périodes pendant l'année. Alors, une ce serait au mois de juin, l'autre ce serait au mois d'octobre, l'autre ce serait au mois de novembre. Et je lui ai dit, mais comme on est au temps des coupes, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mon annonce des 3 retraites que j'aurai en 1996, Dieu voulant, si je vis, si je reviens d'Italie, du 50e temps et des autres, eh bien, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ma feuille pour la mettre, c'est le même poids, ça me fait les mêmes 45 scènes que l'on voit partout et dans le monde entier, pour ceux qui me connaissent encore, qui prient pour moi, où il n'est pas question d'argent, mais où il est question que le Seigneur est toujours fidèle. Et qui n'est pas dans le rouge. Qu'il est celui qui répond à nos prières et que ce qu'il ordonne, il le donne. Mais annoncer les dates des retraites, ça ne suffit pas. Il fallait que j'annonce les thèmes, c'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Et il fallait que j'ai les thèmes. Alors de nouveau, sur mes genoux, j'ai demandé à Dieu, donne-moi au moins 3 thèmes qui tiennent et qui correspondent à ce que tu veux. Alors le premier thème de juin, j'avais entendu tellement de personnes confuses au sujet de la mort et de la résurrection que j'ai donné comme premier thème pour le mois de juin, le thème sur la résurrection. Qu'apprenons comment? Oui. Y a-t-il une résurrection des morts? Et que dit la Bible? Qu'apprenons-nous dans la Bible au sujet de la résurrection des morts? Et ce que je vous disais, c'est que quand vous avez ce livre dans la main, vous avez une vraie petite bibliothèque. Hein. Je vous ai dit ça au mois de juin, la portatrice. Et il faut chercher, est-ce qu'il n'y a qu'une résurrection ou est-ce qu'il y a 2 résurrections? Là, il y en a 2 selon l'écriture. Alors, à moi de savoir si je crois l'écriture ou si je crois les docteurs qui ont écrit sur l'écriture. C'est pas que je l'écris, les docteurs. Alors, on a étudié au mois de juin la résurrection, en prenant depuis l'âge naissant jusqu'à l'Apocalypse tout ce qu'on pouvait trouver sur la résurrection. Et ça, ça peut évidemment aussi vous aider, si vous voulez. Mais c'est une étude personnelle qu'il nous faut. Alors, on a vu qu'il y avait la résurrection pour la vie et la résurrection pour la mort. Et qu'entre les deux résurrections, il pouvait se passer au moins 1000 ans. Je sais qu'il y en a qui nient le millénarisme, mais enfin, il y a deux résurrections. La résurrection des chrétiens, d'abord des croyants, et de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, avant qu'ils ne viennent, mais qui avaient mis leur espérance dans l'esprit, par la prophétie. Ils ressuscitent quand le Seigneur revient. Et alors, bon, on a étudié la résurrection. Et puis alors, il y a la résurrection finale. Tout à la fin, la résurrection des morts. Mais il y a donc une résurrection d'entre les morts. Et je vous en supplie, si vous n'étiez pas là, essayez de trouver chaque fois qu'il est parlé d'une résurrection d'entre les morts. Donc, on sort de la mort, et il y en a d'autres qui restent encore. Mais la résurrection d'entre les morts, elle est appelée une résurrection pour la vie, une résurrection bienheureuse, et quand a-t-il lieu, alors c'était le deuxième thème qui allait nous le donner. Mais ce que j'avais compris, puisque ce sont mes dernières rencontres, je voudrais que vous ayez un amour pour la Bible. Et que vous ayez des convictions personnelles. Et que vous ne soyez pas d'accord avec le dernier pasteur ou curé qui aura parlé. Mais que vous soyez comme les Béréens qui examinent chaque jour ce que dit les Écritures. Alors, dans notre dernière rencontre, nous avons vu comment lire la Bible d'une manière intelligente et savoureuse. Et cela, ce n'était pas un thème évangélique spécialement, puisque maintenant, nos amis catholiques font toute une propagande aussi pour qu'on lise la Bible de cette manière-là. Et je vous ai parlé de plusieurs livres, de commentaires vraiment bibliques qui peuvent vous aider à la lire de cette façon-là. Mais mon idée n'est pas de vous lancer dans des commentaires bibliques, mais de vous donner une connaissance de la parole. Alors, ce que nous avons découvert, nous ne l'avions pas encore fait, dans notre rencontre précédente, c'est qu'il ne fallait pas seulement lire l'Ancien Testament, ni nous en rester au Nouveau, mais ce que nous avons pu voir, c'est que dans l'Ancien Testament, la venue du Seigneur était annoncée prophétiquement. De sorte qu'avec les textes seuls de l'Ancien Testament, on pourrait écrire toute une vie de Jésus avec des détails extrêmement précis. Et que quand Jésus est venu, il a revêtu de son autorité l'Ancien Testament, qu'il appelait les Écritures. Et c'est lui-même qui, dans le chapitre 24 de Luc, a expliqué aux disciples d'Emmaüs qui le voient ressusciter, mais qui ne le reconnaissent pas, il étudie, il leur explique dans toutes les écritures les choses qui le concernaient. Dans quel livre? Dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Les écritures qu'on divisait en trois grandes parties. Et alors, nous avons insisté sur la manière de lire. Il y a une méthode, mais je vous ai pas mis sous un jour. Je vous ai pas dit, levez-vous, prêtons le matin pour vous. Ou des choses qui vont vous troubler. Mais je vous ai dit que quand vous ouvrez la Bible et que vous avez un moment pour lire, prenez ce moment-là. Réfugiez-vous. Prenez la méthode que vous voudrez. Mais lisez la parole. Lisez-la une fois. Lisez-la deux fois. Lisez les mêmes textes. Ne prenez que peut-être 10 ou 12 versets s'il le faut. Mais vous lisez d'abord. C'est la lecture priante. Et quand vous lisez, vous priez en même temps. Puis ensuite, vous méditez, vous vous arrêtez sur les mots, parce que chaque mot a un sens, et vous serez nourri de la parole, vous méditerez cette parole. Ensuite, vous contemplez cette parole. Est-ce qu'il y a des hommes dans la Bible qui me font penser à tel ou tel texte? Et vous voyez cette parole s'éclairer, s'illuminer, puis est-ce que il y a un verset qui me touche d'une façon particulière? Alors vous vous arrêtez et vous l'inscrivez. Vous notez le verset clé, le verset qui vous touche le plus. Et pour vous en souvenir, vous le mettez peut-être dans votre poche. Et dans la journée, vous reprenez ce verset, et puis vous le relisez, et vous verrez que c'est une parole qui deviendra lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. La Bible ne sera plus un livre dont certains vous disent, c'est de l'idolâtrie, vous adorez la Bible. Non, nous n'adorons pas la Bible. La Bible, c'est le livre où Dieu nous parle. Et quand nous l'ouvrons, nous entendons Dieu nous parler. Et nous ne lisons pas la Bible pour nous instruire seulement, mais pour laisser la parole du Seigneur nous transformer. Et alors, en lisant ainsi la Bible, eh bien, il y a une vie qui change, et cette vie qui est tellement changée, parle à ceux qui nous entourent, beaucoup plus que toutes les réunions d'évangélisation et de prédication qui coûtent les yeux de la tête. On nous demande de l'argent de partout pour organiser des grandes réunions, alors que je vois mon Seigneur rassembler les 2 ou 3 autour de lui pour leur parler, ou envoyer un Jean au désert et envoyer les gens au désert. Nos méthodes sont des méthodes qui n'ont plus rien à faire avec nos temps, parce que nous sommes dans la détresse, et puis nous avons l'air de dire que Dieu est au bout du rouleau. Si nous revenions à la parole de Dieu, nous aurions des moyens encore pour le servir, et nous verrions des vies transformées. Et vous avez une vie transformée. Dieu n'a pas travaillé avec beaucoup d'hommes. Il a travaillé avec certains hommes qui se sont vraiment donnés à lui. Et il a fait une merveille. Mais nous, maintenant, nous voulons des grandes réunions, des grandes manifestations, du bruit et du bruit. Et en même temps, nous voudrions entendre la parole de Dieu. Alors on entend des miaulements, c'est le Saint-Esprit. On entend des rugissements, c'est le Saint-Esprit. Qui rugit comme un lion, qui n'arrive que qu'à miauler, et tout ce que vous entendez, et les gens croient ces choses-là, chers amis. Revenez à la Bible. C'est la voix douce et subtile. Et laissez cette parole faire son effet dans vos cœurs. Et si vous avez repris votre prière, vous arrivez le soir, vous vous dites, tiens, j'en fais un de plus de respect. Je connais maintenant ce verset. Et il reste dans votre vie. Et au moment difficile, il vous sera rappelé par le Saint-Esprit qui devient votre mémoire. Mais je vous ai pas mis sous la loi d'une lecture biblique. Je vous dis, quand vous ouvrez la Bible, pensez que c'est le Seigneur qui vous parle. Et entrez alors dans la prière. Et on a vu comment on pouvait est aidé dans la prière par la lecture des psaumes. Les psaumes sont des livres de prière et nous avançons dans la connaissance des Écritures. Alors, ce soir, il y avait très peu de versets dans mon autre préparation. Quelqu'un a très bien compris et m'a écrit, nous avons compris que vous vous prépariez à disparaître. Ça m'a fait plaisir. Enfin, qu'on parle plus de moi. Vous vous préparez à disparaître. C'est vous qui voulez étudier. C'est vous qui voulez étudier. C'est à vous que cette parole. C'est cette parole que vous devez aimer. Et alors, pour notre dernière soirée, vous avez votre petite feuille, parce que je ne suis pas sûr que, avec maintenant la télévision, les gens lisent beaucoup. Alors, lisons-le. 20h30, rassemblement dans la grande salle de Mouniel. Parole d'accueil et promesse de Jésus. Vous ouvrez votre Bible au chapitre 14 de Jean, versets 1 et 3. Il allait quitter les siens, c'était le dernier succès. Et les siens étaient tristes de le voir partir. Et ils ne croyaient pas à toutes les paroles que Jésus avait dites. Qu'est-ce qu'accomplirait Jésus? Pas possible. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il arriverait. Qu'il allait être crucifié. Arrêté, crucifié, trahi, rejeté, loué sur une croix. Et qu'il mourrait. Mais qu'est-ce qu'il avait ajouté? Pour après, il ressusciterait. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui le croyaient? Que Jésus ressuscite? Avec quelques femmes, peut-être? Mais quand ces femmes sont allées dire ça aux grands apôtres, que c'était vrai qu'il était ressuscité, qu'est-ce que les grands apôtres ont dit? Elles ont perdu la tête. Ils sont allés voir, ils ont dit que le sépulcre était vide. Bien, vous savez, le monde n'a pas changé. Mais qu'est-ce qu'avait dit Jésus? Jean 14, il est tellement beau, que votre cœur ne soit pas troublé. Nous sommes en 1996. Hier, la secrétaire de ma femme apprenait à ma femme que son mari avait perdu sa place. Nous sommes dans des temps troublés, dans des temps difficiles pour les familles, pour les foyers. Que votre cœur ne soit pas troublé. Qui est-ce qui dit ça? Jésus. Et qui est Jésus? Dieu lui-même. Le Père. Vous croyez en Dieu. Croyez en Dieu. C'est-à-dire celui qui nous a révélé le Père. Vous croyez en Dieu. Oh, les gens croient en Dieu. Ils ont un certain croyance. C'est tout pour croire que Dieu n'existe pas. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en mon Père. Dans la maison de mon Père, est-ce que ça nous intéresse, cette maison du Père? Dans la maison de mon Père, ou bien c'est seulement notre villa secondaire qui est un petit peu endommagée, là, au lac Saguenay, et puis on voudrait avoir quelques points d'ombre pour pouvoir faire encore cette villa, la réparation de cette villa. Dans la maison de mon Père. Est-ce que cette maison qui compte pour nous? Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a de la place pour tout. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vous l'ai dit. Car je vais vous préparer une place. Rendez-vous compte de cela? Qu'est-ce que vous dites là? Jésus, mais vous le dites de la part de Dieu. C'est la maison de ton Père. Alors, s'il va nous préparer une place dans la maison de ton Père, c'est que le Père est d'accord. Mais le Père est d'accord de préparer, que son fils prépare une place pour qui? Pour ceux qui l'ont reçu. Mais est-ce que nous l'avons reçu? Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a bien dit? Je reviendrai. J'ai souligné la dernière fois, quand Jésus s'est trouvé en face de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, il est mort. La parole de Jésus a été à Marie. Crois-tu à la résurrection? Ton frère ressuscitera. Oui, oui, je sais qu'il ressuscitera. Tout le monde croyait qu'on ressuscitera. La doctrine, on la croyait. On croit la doctrine. Mais quand la mort est là, on croit la doctrine. Mon frère ressuscitera quand? Au dernier jour. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Je suis la résurrection et la vie. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Crois-tu cela? Et plusieurs m'ont dit que ça les avait frappés et j'avais été expédié, justement. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? La résurrection, c'est quoi? C'est une personne, c'est quelqu'un. La résurrection, c'est quelqu'un, c'est lui. Je suis la résurrection et la vie. Alors, pour qu'il y ait une résurrection, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Le retour de Jésus. Si la résurrection, c'est Jésus, il était le retour de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Et écoutez ici. Je vais vous préparer une place. Si je vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Et je vous prendrai où? Auprès de moi, parce que là, il y a une grande confusion et nous aurons l'occasion d'en parler demain. Je vous prendrai où? Auprès de moi. Et il faut qu'on trouve ces passages. Hein? Je vous prendrai auprès de moi. Qu'est-ce qu'il y a dit là? Celui qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, mais où est-il? Vous croyez? Vous croyez au ciel? Vous savez quelle crise ici? C'est pour ça que j'ai posé la question suivante. Afin que là où moi je suis, vous soyez aussi sur la terre, c'est pas n'importe où, c'est où? Dans la maison de mon Père. Là où j'ai ma place, où vous avez votre place. J'ai dit, au lieu que ce soit la même prière de Jésus, pour introduire notre retraite, pour que vous soyez bien ici. Qu'est-ce qu'il voulait quand il parlait à ses disciples de cette place dans la maison du Père? Qu'est-ce qu'il a dit à son Père à ce sujet-là? Il voulait une place pour ses disciples qu'il a députés. Il la voulait cette place dans la maison de son Père. Et que lui dit-il? Le chapitre 17, verset 24. Père, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux. Et on a dit que c'était le seul je veux que Jésus avait dit. Père, je veux. Et ce je veux, il l'a dit pour qui? Pour nous. Père, je veux. Quant à ceux que tu m'as donnés, qu'est-ce qu'ils donnent? C'est le Père. Est-ce que vous êtes des données du Père au Fils? C'est merveilleux, hein? Quand on s'est donné, c'est Jésus qui parle. Père, je veux, quant à ce que tu m'as donné. Et il avait dit dans une autre parole, n'est-ce pas? Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne... Il n'est pas dit, nul ne vient à moi si ce russe évangélise, ou cet américain évangélise, ou ce canadien évangélise, ou ce suisse évangélise, ne l'a dit. Nul ne vient au Père que par... personne ne doit se tromper. Nul ne vient à moi, dit Jésus, sans que le Père qui m'a envoyé me l'attire. Alors, il y a l'attrait du Père. C'est pas la musique. C'est toi, du souffreux, qui attire les âmes. C'est pas l'ambiance de la salle, mes amis. On peut dire ça. C'est le monde qui fait ça. Et maintenant, l'église, elle ne fait plus que ce que le monde fait. Mais laissez-moi vous dire. C'est ça qui est triste. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père m'a envoyé le Saint-Esprit. Et une fois que le Père l'a attiré à lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il a pardonné tous les péchés? Trouvez-moi le péché qu'il n'a pas pardonné pendant son ministère. Pardonnez même à la femme adultère, parce qu'il admettait les adultères. Pour quelle raison est-ce qu'il peut pardonner la femme adultère? Parce qu'il prenait son péché sur lui, à son compte, et qu'il allait le lier au salut. C'est pourquoi il ne se pouvait pas que Jésus meure. Il avait pardonné les péchés. Et ces péchés, le salaire du péché, vous savez ce que c'est? C'est la mort. De sorte que si Jésus a pardonné les péchés, c'est parce qu'il les prenait à son compte, comme si c'était lui qui les avait commis. Et sur la croix, il est mort pour expier nos péchés. Vous y croyez? C'est ça le salut. Mais ça va beaucoup plus loin. Alors, une fois que Jésus nous a sauvés à la croix, à qui est-ce qu'il nous redonne? Au Père. C'est pour ça que la maison du Père, c'est notre maison. Et nous redonne au Père. Il n'y a pas de contradiction. Il nous redonne au Père. Et c'est ça. Alors nous ne sommes plus des orphelins. Nous avons un Père dans les cieux. Et alors, conduisons-nous mieux que les oiseaux, conduisons-nous mieux que les lions des champs. Nous nous faisons du souci pour le manger, pour le boire. Les oiseaux n'ont pas de souci, les êtes un auteur allemand, dont nous te remandons. Ils n'ont pas de souci, les oiseaux. Ils ont un Père dans les cieux. L'Élise des champs, Salomon dans toute sa gloire, n'était pas revêtu comme monde. Mais est-ce que nous savons voir ces choses? Est-ce que nous les croyons? Est-ce que nous avons une foi en Dieu? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore des hommes qui y croient? Crois-tu cela? Et crois-tu ce qu'il a dit? Je reviendrai. Et qu'un jour il sera revenu, oh oui, à la fin des temps, quand c'est la fin des temps. À la fin des temps, oh, mais c'est plus loin possible. Et des gens qui vous disent, mais moi, je crois que le Seigneur reviendra, mais il ne réfléchit pas. Ça veut dire quoi? Il ne connaît pas. Ce que vous devez savoir, c'est que Jésus doit être votre époux, votre sauveur. Oui, ah, tout le monde là accepte le sauveur. Le sauveur, le sauveur, le sauveur, Jésus le sauveur, Jésus le sauveur. C'est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur. On dit Seigneur, 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 oui, mais moi c'est un croyant, hein, c'est un imbécile, je crois. Il y a bien quelque chose, il y a bien une chose. Première, le Seigneur, le Seigneur. Non, mesdames, faites attention. Ne nous y trompons pas, et c'est ma dernière prédication avec vous. Ne vous y trompez pas. Jésus n'est pas seulement le Sauveur. Il est le Seigneur. Mais qu'est-ce que son Père voulait pour lui? Ce qu'Abraham voulait pour Isaac. Il voulait un époux. Et on retombe là dans la Genèse, et ça c'est tellement merveilleux. L'unité de la vie, il l'a unité. Et il est venu pour chercher une épouse. Il voulait une épouse pour son fils. Le Père voulait pour son fils une épouse, une épouse. Et alors, il est venu chez qui? Jésus. C'était les siens. Il était ses traces. Et les siens ne l'ont pas
reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parmi les Juifs, il leur a été donné le droit de devenir enfants de Dieu. De créatures qu'ils étaient, avec la religion qu'ils avaient, parce qu'ils avaient comme relation avec Dieu. Regardez les pharisiens, les sadducéens, ils ne croyaient pas, ils croyaient mieux aux anges de l'esprit. Ils avaient une religion, tout le monde a une religion. Mais mes amis, que le Seigneur parle à nos cœurs ce soir. Qu'il parle à nos cœurs. Le Père voulait pour son fils une épouse. Mais une épouse qui lui soit. Les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont crucifié. Et à qui l'ont-ils livré? Pour qu'il meure. Aux Romains, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mort. Hein. Alors ils l'ont livré aux Romains. C'est pour ça que je pourrais dire en plein Jérusalem, vous nous l'avez livré et nous l'avons crucifié. Nous, les Romains. Donc, tout homme, juif ou grec, nous sommes coupables du crime de Golgotha. Nous ne pouvons nous glorifier de rien. Nous avons, si Dieu vient sur la terre, si on peut l'avoir, on le tue. Il est insupportable. Et vous savez, s'il venait maintenant, c'est la même chose. S'il venait dans cette faiblesse où on l'a tué. Et maintenant, on vous dit, et il y a toutes ces théories, vous les chrétiens, faites la politique, engagez-vous dans un mouvement ou un autre, soyez conscients de vos responsabilités, vous allez changer le monde. Vous y croyez à ça? C'est que vous ne croyez pas à la Bible, et que vous ne l'avez jamais lu depuis la première page jusqu'à la dernière page. Car ce n'est pas l'évangile qui va convertir le monde, c'est quoi? C'est Jésus, par son retour. Il est venu une première fois. Il aurait pu régner. Le royaume s'était approché parce que le roi était là. Et qu'est-ce qu'on a fait au roi? On l'a crucifié. On l'a rejeté. Puis on prétend que nous, en 1996, au temps de toutes les injustices, de toutes les iniquités, qui sont légalisés aujourd'hui, à tel point qu'un juge disait, un jeune homme, et ça ne peut pas empêcher, je ne suis pas jugé pour ça. C'est admis, ça c'est admis. On admet tout, et on prétend que nous allons changer le monde, nous, dans nos églises, que ce soit catholique ou protestante ou évangélique, peu importe ce qu'on nomme église, christianisme. Le monde a rejeté Jésus-Christ. Nous sommes en pleine apostasie. Et je sais très bien que je ne me fais pas aimer en disant ça, mais je vous aime assez pour vous dire, nous sommes en pleine apostasie. Rejet ouvert des vérités du christianisme. Voilà l'apostasie. Mais alors, plus le monde est fait, parce que l'homme est un animal religieux, alors il nous faut quelque chose, il nous faut nous rencontrer, il nous faut nous retrouver. Ou que le Seigneur en finisse avec ce Mahanaïm, que nous ne devenions pas une secte. Nous venons ici parce que nous devons bien avoir un nom quand même, mais qui veut dire le don de Dieu. Là où sont des hommes qui ont été touchés par Dieu lui-même. Alors nous sommes ensemble. Ça ne m'intéresse pas de savoir de quel milieu vous venez, mais nous nous recevons les uns des autres. C'est pour ça que je dis ceci. Qu'est-ce qui nous reçoit ici? Qu'est-ce qui nous accueille? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? On y arrive. Mais vous voyez comme je l'ai dit, hein. Verset 24, hein. Père, je veux, quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient, ou, avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. Qu'est-ce que nous allons voir, chers amis? Ma gloire. Ma gloire. Que tu m'as donné, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Perdu. Le monde ne t'a pas cru. Et vous croyez que je le connais mieux maintenant? Jésus a dit avant la croix, maintenant le monde est jugé. On a besoin de ça. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu ce qu'il m'a envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître. Je leur ferai connaître ton nom. Et je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont ils m'avaient aimé soit en eux. Et moi en eux. Et bien ça, c'est tout ce que je veux dire pour vous. Que réellement, l'amour de Dieu, que ce soit la fin de nos rencontres, soit en vous et en moi. Et que le monde connaisse que nous sommes des hommes et des femmes qui ont les mêmes tendances que les autres, mais qui ont reçu l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de qui? De Jésus. C'est l'amour de Jésus lui-même. Alors, je dirais maintenant, puisque je crois que tout le monde est arrivé à peu près, vous avez tous reçu peut-être ce petit feuillet, et ceux qui ne les ont pas. Vous voyez que nous allons avoir quelques renseignements